Bonjour Isabelle Concessi, vous êtes la directrice du Centre social La Paz à Saint-Jean-en-Royans et aujourd'hui nous fêtons les 50 ans du Centre social La Paz sous le signe des transitions écologiques, solidaires et citoyennes. Alors vous avez choisi ce thème pour les 50 ans du Centre social?
Oui, bonjour. Alors, c'est en partie ça, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un anniversaire au long cours sur plusieurs dates. On a démarré ces 50 ans en mai de cette année et on les clôt aujourd'hui, donc le 18 octobre ici à Saint-Nazaire. Le choix du thème est aussi particulier puisque on a organisé quatre événements. Parmi ces quatre événements, on a trois événements qui portaient sur les trois axes de notre projet associatif. Donc un premier événement qui a porté sur la petite enfance et l'enfance qui était en mai. Un second événement qui portait sur les seniors, l'habitat et la culture et qui a lieu en septembre. Et enfin, ce dernier événement d'octobre sur Saint-Nazaire et qui porte sur les transitions écologiques, citoyennes et solidaires. Donc le choix de Saint-Nazaire est un choix qui est réfléchi puisque c'est une commune qui est engagée sur cette question et ça nous semblait bien de finaliser cet anniversaire ici avec cette mairie, avec un après-midi constitué de la proposition de différents ateliers et un spectacle qui va démarrer certainement entre 17h et 17h30 avec la compagnie Gravillon, le spectacle Point de bascule qui porte toujours sur le même thème et qui sera suivi d'un débat avec le public.
Ce centre social, il a 50 ans. Est-ce que il a toujours porté sur ses valeurs? Est-ce que vous avez vu l'évolution de ce centre social plus récemment?
Alors moi j'ai à peu près le même âge que ce centre social, donc je peux parler de ces 10 dernières années. Effectivement, sur ces 10 dernières années d'existence, on voit effectivement une, je sais pas comment dire, une poussée importante de cette question des transitions écologiques. C'est un centre qui travaille depuis de très très nombreuses années sur la question des mobilités et on s'est rendu compte que de plus en plus cette question des mobilités se traitait sur le comment est-ce qu'on peut faire sans voiture ou comment est-ce qu'on peut faire avec moins de voitures et puis comment est-ce qu'on peut faire à vélo. Enfin voilà, on se rend compte que cette question des mobilités va sérieusement vers la question des mobilités douces. Et donc, je dirais que cet axe transition, c'est un axe qui est clairement inscrit dans notre projet associatif depuis 4 ans maintenant. Mais je crois que c'est un axe qui est vraiment travaillé depuis une quinzaine d'années dans l'association.
Et par rapport à ces questions de mobilité douce, donc est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail des projets et de ce que le centre social a déjà mis en place?
Alors, sur les mobilités douces, je crois que un des projets qu'a porté le centre social et qui est peut-être le plus connu et reconnu sur le territoire, c'est celui des transports partagés. Donc ça, en deux mots, hein, c'est trois véhicules qui sillonnent le territoire, qui sont majoritairement conduits par des bénévoles et qui proposent des boucles qui sont préétablies, un peu comme des transports en commun le feraient. Et puis également du transport à la demande pour les personnes qui ont besoin de se déplacer, qui rencontrent des difficultés et qui, du coup, peuvent solliciter les transports partagés. L'idée des transports partagés, bien sûr, c'est de générer du lien social. Et puis, ce sont des véhicules qui incitent à se déplacer en collectif. Voilà, on essaie d'éviter de transporter qu'une personne, à la fois par le biais des boucles et à la fois par le biais du transport à la demande. Et puis, ces dernières années, effectivement, on accompagne un collectif qui s'appelle le collectif Garavélo, qui, lui, travaille spécifiquement sur l'usage du vélo musculaire dans un premier temps, en proposant un répare vélo où les gens peuvent venir avec leur vélo qui va pas très bien et ils vont être accompagnés pour réparer leur vélo. Il y a une vélo école et voilà, c'est un atelier sur lequel vous pouvez vous rendre les samedis lorsqu'il est ouvert et vous trouvez du matériel, vous trouvez des outils, vous trouvez tout ce qu'il faut pour le bien de votre vélo. Et depuis maintenant 2 ans, si mes souvenirs sont bons, oui, je ne me trompe pas, depuis maintenant 2 ans, nous proposons à la location des vélos à assistance électrique, toujours par le biais du collectif Garavélo, qui met à disposition ses vélos et la contractualisation se fait avec le centre social ou avec Active Royan. Et donc, on peut louer un vélo pour des sommes relativement modiques. Hein. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'usage et de permettre aux habitants de se rendre compte si c'est un usage qui peut leur convenir. Donc, la location est possible pour 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et au terme de cette location, normalement, les gens savent s'ils ont envie d'investir ou pas dans un vélo à assistance électrique et s'ils vont en avoir un usage quotidien.
Et donc l'idée de ces 50 ans, de cette journée anniversaire, j'imagine que c'est pour que les différentes initiatives se croisent, que les gens se rencontrent sur cette plage de Saint-Nazaire.
Oui, l'idée de ces 50 ans, c'est surtout de proposer en fait aux habitants des moments où ils vont pouvoir se retrouver et échanger sur différents sujets. Et puis, au-delà de ce que l'on peut proposer aux habitants, ça permet aussi à l'ensemble des partenaires de se retrouver sur un même lieu et aussi de pouvoir échanger, puisque on voit bien que les différents stands, qui sont les différents ateliers qui sont proposés cet après-midi, sont proposés par des partenaires divers et variés, allant de la communauté de communes, en passant par la LPO, les Déchénérés. Enfin voilà, vous avez plein d'associations ou de collectifs qui œuvrent sur ce territoire et qui se retrouvent là. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire ensemble pour proposer quelque chose aux habitants ensemble.
Ben merci Isabelle Concessi. Je vais donc faire un tour sur ces différents stands et très bon anniversaire au Centre Social La Paz.
Merci beaucoup.
Alors je me trouve à présent avec Karine Bruyère qui est élue à la mairie de Saint-Nazaire-en-Royans et qui tient un stand qui s'intitule Atlas de la biodiversité. Bonjour Karine Bruyère, est-ce que vous pouvez nous parler de cet Atlas de la biodiversité ?
Bonjour. Alors l'Atlas de la biodiversité, on s'y est intéressé assez rapidement. C'est le parc du Vercors, le parc, le PNRV, qui nous a proposé ce projet pendant 2 ans, depuis septembre 2021 jusqu'à cette année. Donc on a été accompagné par des associations comme la LPO, Flavia, le parc du Vercors. Et il y a eu des services civiques qui ont été recrutés de façon à nous aider à faire l'inventaire sur notre commune, sur notre territoire, dans 4 thématiques. Donc sur tout ce qui est les zones humides, les chauves-souris, les arbres remarquables et les haies et les pollinisateurs. Et du coup, on est de nombreuses communes à avoir participé sur l'ensemble du parc du Vercors. Et nous, on trouvait ça intéressant de faire cet inventaire pour défendre aussi un peu notre biodiversité sur notre commune, parce qu'on se dit qu'en connaissant mieux ce qui s'y trouve, on est mieux à même de l'expliquer aux gens. Il y a aussi un programme scolaire qui a été fait en parallèle. Donc la première année, l'école de Saint-Nazaire-en-Royan a travaillé sur le thème des chauves-souris et a été accompagnée aussi par le biais de l'école. Et il y a eu une petite exposition qui s'est faite au parc Château-Laurent, du Château-Laurent. Et nous, la commune, on a organisé donc une petite commission biodiversité participative avec des habitants. Et on se réunit de temps en temps pour réfléchir à ces thématiques-là et pour savoir ce que l'on peut faire au niveau de la commune pour répertorier et pour organiser des petites manifestations, pour informer les gens et essayer de mettre en valeur et de préserver cette biodiversité qui est en danger quand même.
Si les gens s'y intéressent, où est-ce qu'ils peuvent aller s'informer pour regarder le résultat de vos recherches ?
Alors l'information, elle est disponible sur le site internet de la mairie de Saint-Nazaire-en-Royan. Il y a un onglet biodiversité et en cliquant sur cet onglet biodiversité, vous aurez accès à tous les documents, tous les flyers, tous les comptes rendus des réunions qui ont été faites. Et il y a aussi un lien qui permet d'accéder à la page du parc du Vercors sur lequel il y a l'inventaire de l'Atlas de la biodiversité qui a été fait sur toutes les communes qui ont participé à ce programme. Et à partir du premier trimestre 2024, chaque commune va recevoir son livret de l'Atlas de la biodiversité en couleur, imprimé. Et ce sera à charge à nous de voir comment on peut le diffuser après auprès de la population. Mais en tout cas, sur le site internet de la commune et sur celui du parc du Vercors, il y a un onglet biodiversité avec toutes les informations et tout ce qui a été fait et qui sera encore à faire.
Et ce projet de l'Atlas de la biodiversité, est-ce que ça concerne uniquement le parc du Vercors ou est-ce que vous savez si d'autres parcs en France ont lancé la même initiative? Est-ce que ça a une envergure nationale?
Oui, c'est une envergure nationale. Il y a 2 ans, quand nous avons participé, le parc du Vercors a obtenu des subventions au niveau de l'État et aussi au niveau européen. Et cette année, les communes n'ont pas été retenues pour ce nouveau projet. Ça le sera peut-être dans quelques années. Donc le parc du Vercors réfléchit pour donner une suite à ce projet qui a duré 2 ans. Mais on sait qu'il y a d'autres parcs au niveau national qui ont déjà fait ce travail de la biodiversité et qui vont encore le faire l'année qui vient.
Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Bonjour François Arrault, vous êtes présent lors de cet anniversaire des 50 ans du Centre Social La Paz, placé sous le signe de la transition écologique, et vous représentez la LPO avec votre stand. Est-ce que vous pouvez nous parler de la LPO et de la raison de votre présence ici sous le signe de la transition écologique ?
Bonjour, oui, ben moi je suis un représentant de la LPO, donc Ligue Protection des Oiseaux et de la Biodiversité. Donc nous avons un groupe Royan-Vercors. Et voilà, donc on s'occupe un peu tout ce qui est au niveau de la faune sur le Royan-Vercors. Ben, la transition écologique, ça nous parle parce qu'on pense que pour sauvegarder la faune, eh bien voilà, il y a beaucoup de choses à faire. La faune est très maltraitée avec le monde moderne qui nous entoure. Donc voilà, donc nous, ben, là, on propose donc toute l'année des sorties naturalistes pour observer. On fait aussi des comptages et des prospections beaucoup plus ciblées sur les oiseaux, sur les chamois. Puis aussi, on fait des conférences, on fait des ateliers nichoirs et on pose des nichoirs chez des agriculteurs. On fait aussi on va planter des haies aussi chez un agriculteur à Saint-Jean. Voilà, donc on essaye d'améliorer la biodiversité générale sur notre territoire. Donc c'est le Royan-Vercors.
Et là, je vois donc que vous avez sur votre stand de quoi fabriquer des nichoirs justement.
L'idée, c'est de fabriquer des nichoirs et puis les gens partent avec leurs nichoirs en fait. Alors le matériau, avant, j'achetais des planches dans une scierie Pin là, Saint-Laurent. Et voilà, mais au lieu de couper des arbres, eh bien maintenant j'essaye de récupérer des palettes, des vieilles palettes. Et comme ça, eh bien c'est du bois de récup en fait. Et c'est pareil, donc avec une petite scie sauteuse et une visseuse, on peut fabriquer des nichoirs très vite. Et voilà, puis ça intéresse beaucoup de gens. J'ai aussi fait des ateliers dans les écoles. Donc là, dans les écoles, en général, je fais d'abord les nichoirs vissés, puis je les dévisse, en fait, et les élèves, je leur donne une visseuse et des vis, et puis les vis, ils remontent, et ça les intéresse, et ça marche très bien, donc c'est complètement possible. Alors j'évite de faire les coupes, hein, parce que ça fait beaucoup de bruit, et c'est dangereux, donc voilà, c'est moi qui fais les coupes, et voilà, mais l'idée, là, sur un stand comme ça, on peut, avec une petite scie sauteuse qui craint rien du tout, on peut faire ça assez vite, on peut faire un nichoir assez vite, oui. Et avec un couvercle qui se peut soulever, je récupère aussi des vieux pneus, des vieux pneus plutôt de VTT. Et ça fait une charnière en fait, j'en mets deux par couvercle. Et comme ça, on peut visiter facilement le nichoir. Alors, il faut éviter de les visiter souvent, juste pour voir si c'est occupé, s'il y a quelqu'un, ça va très vite. Pour le nettoyer aussi, ça va très vite. Et le poids du couvercle, eh bien, ça suffit pour pas qu'il bouge en fait. Hein. Et voilà, et donc c'est pour que ce soit facile. Facile à faire et facile à utiliser. Voilà. Et puis là, il y a un canard, une canne qui est en train de me picorer les pieds sur la plage de Saint-Nazaire. Voilà. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à manger chez moi. Mais...
Ils essayent, oui. La LPO, c'est, on parlait de la faune en général, mais c'est surtout l'observation des oiseaux.
C'est tout en fait, le principe au départ, la LPO c'est les oiseaux, donc c'est la plus ancienne société naturaliste de France, comme là la LPO on a 120 ans je crois, quelque chose comme ça, donc au départ c'était les oiseaux, mais aujourd'hui c'est tout en fait, hein. c'est les oiseaux, c'est les chauves-souris, c'est les chamois, c'est les insectes, c'est s'occuper aussi des terrains, des grottes, on gère aussi des grottes d'achauves-souris qui sont très qui peuvent être déstabilisées assez vite avec les gens. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est la biodiversité en général. On a aussi quelques terrains, on achète aussi des fois l'occasion, hein, vraiment des terrains pour les protéger. Puis après, ben, on fait de la prospection pour savoir ce qu'il y a dessus. Donc ça, c'est toute l'année, hein, pour prospecter un lieu. Il faut toutes les saisons, en fait, parce que la faune, elle navigue au gré des saisons. Et puis après, on peut faire des actions, comme éventuellement, oui, mettre des nichoirs ou planter des haies, ou ouvrir des milieux, et des milieux qui, quand on s'en occupe pas, qui se referment, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui poussent. Et pour certaines espèces, comme le tétralyre par exemple, ou autre, il faut réserver des milieux ouverts. Donc à l'occasion, ça se fait aussi. Et on est toute l'année, on a beaucoup d'actions.
Merci François Haro. Et un dernier mot pour la fin. Comment on fait si on veut être tenu informé des actions de la LPO Royan-Vercors?
Eh bien, pour le Royan-Vercors, moi j'ai 130 mails de gens qui sont intéressés chaque fois qu'on fait des sorties ou autres. Mais le mieux, c'est d'aller sur le site de l'Alpéodrome Ardèche. Et là où vous cherchez, vous trouvez les groupes locaux, et dans les groupes locaux, le groupe du Royan, il y aura mon mail. Le mieux, c'est ça. Donc le site, c'est Alpéodrome Ardèche. Voilà, ça, c'est facile.
D'accord. Et ensuite, les gens donc vous contactent par mail.
Oui.
Eh bien, merci François Harrault.
Bonne journée.
Bonjour Anne, vous êtes membre du collectif Royan-Vercors Collectif Citoyen et vous êtes présente aujourd'hui pour cette journée de la transition écologique solidaire et citoyenne. Vous tenez un stand plus particulièrement sur les déchénérés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce collectif et plus précisément des déchénérés ?
Alors, au sein du collectif, il y a plusieurs branches et il y a une branche qui s'occupe des ordures ménagères, du tri, du recyclage, de ce que devraient devenir nos ordures. Et donc, les déchénérés, c'est sous l'impulsion d'une personne d'abord et puis après on le suit, Bruno. Il récupère dans les poubelles de tri et les sites de tri tout ce qui est posé à côté des poubelles ou dans les poubelles grises et qui n'a rien à faire dans les ordures. C'est incroyable, sur ce stand, il y a 10 mètres carrés hein, d'objets. Il pourrait y en avoir beaucoup plus puisqu'on n'a pas tout amené. C'est des choses qui ont été déposées alors que la recyclerie est ouverte et qu'on pourrait tout à fait réutiliser à la recyclerie. Donc nous, on les récupère pour montrer aux gens que c'est vraiment pas la chose à faire et de déposer tous ces objets qui peuvent avoir une seconde vie. Et puis pour aussi faire que ces lieux de tri soient propres et accueillants et donnent envie aux gens de trier et de réellement jeter ce qu'il y a à jeter, mais pas déposer n'importe quoi.
En effet, je vois sur votre stand tout un tas d'objets, de vêtements en parfait état, donc c'est assez impressionnant. Vous organisez donc des ventes, est-ce que ce sont des prix fixes et à quoi servent les éventuels bénéfices de ces ventes ?
Alors notre objectif, c'est pas tellement de vendre, hein, c'est de montrer ce qui ne devrait pas être. Alors après, si ça peut être récupéré, c'est tout vendu à prix libre. Lors du vide-grenier de ce printemps à Saint-Jean, on a comme ça vendu pour 350 €, qu'on a reversé au Resto du Cœur, mais on peut le reverser à d'autres associations. L'objectif, c'est plutôt de montrer ce qui ne devrait pas être et comment faire en sorte que de plus en plus de personnes ramènent ce qui peut avoir une seconde vie à la recyclerie et jettent correctement ces affaires.
Si l'on souhaite suivre votre actualité, est-ce qu'on peut se renseigner quelque part sur les prochains projets des déchénérés ?
Alors malheureusement, il y avait une page Facebook qui a été piratée. On n'en a pas refait encore une nouvelle, ça viendra. Et pour le moment, on n'a effectivement pas de moyens d'information. Disons que nous, ce qu'on recherche, c'est être présent dans des endroits où il y a beaucoup de monde pour que ça soit vu et que les gens y aient une réelle prise de conscience. Donc quand il y aura une page Facebook, on pourra à ce moment-là redonner des informations.
Merci Anne des Déchénérés.
Merci.
Je suis toujours sur la plage de Saint-Nazaire à l'occasion de cette journée de la transition écologique citoyenne et solidaire organisée par le Centre social La Paz. Et je me trouve avec Laurine Vignon qui est technicienne déchets à la communauté de communes Royan-Vercors et qui tient un stand d'information sur le compost. Laurine Vignon, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce stand et de l'information que vous souhaitez transmettre ?
Bonjour. Alors ce stand, en fait, son objectif, c'est d'informer surtout les habitants de la réglementation sur les biodéchets. Donc en fait, au 1er janvier 2024, on ne pourra plus jeter tout ce qui est déchets organiques à la poubelle. Donc les déchets organiques, c'est quoi ? C'est tout ce qui regroupe les épluchures, les restes de repas, enfin en gros pour faire simple, on va dire les déchets de cuisine, mais aussi les déchets de jardin d'ailleurs, ne devront plus se retrouver dans la poubelle au 1er janvier. Donc nous devons apporter des solutions aux habitants pour gérer ces déchets organiques. Il y a plusieurs possibilités. Donc certains habitants ont des poules, donc c'est une solution, mais sinon on met en avant le compostage. Donc deux types de compostage, soit le compostage individuel pour les personnes qui ont un jardin, ou alors pour celles qui n'ont pas de possibilité de composter à domicile, on développe sur le territoire des compostages collectifs, donc en centre-bourg ou en bas de zones d'habitat collectif. Voilà, donc l'idée de ce stand, eh ben, c'est justement d'informer les habitants sur à la fois le compostage individuel et la vente de composteurs, et d'un autre côté, le compostage collectif.
Donc si une personne souhaite venir acheter un composteur, il peut se rendre directement à la communauté de communes ?
Oui, tout à fait. Il y a deux sites pour se procurer un composteur individuel. Donc juste avant, je précise que c'est des composteurs en plastique recyclé. Voilà, au tarif de 30 euros. On peut se les procurer soit à Saint-Jean-en-Royan, au siège de la communauté de communes 28 rue Hector Alléaubert, tous les jours de la semaine, enfin du lundi au vendredi de 9h à midi. Ou alors, pour les habitants du Vercors, on peut s'en procurer donc à la chapelle en Vercors, à la maison du paysan, pareil, de 9h à midi, du lundi au vendredi.
Et alors, quand vous communiquez comme ça sur un stand en public, est-ce que vous avez l'impression que les gens savent que dès le 1er janvier 2024, il y aura une obligation de composter, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas encore dans l'attention de tous ?
Alors, ça dépend. Quand on tient un stand, comme aujourd'hui, pour l'instant, les personnes qu'on a rencontrées ont l'air déjà d'être un petit peu engagées et conscientes de cette actualité réglementaire. Parfois, on peut tenir d'autres stands dans d'autres contextes où là, c'est vraiment de la nouveauté pour les gens. Alors, c'est vrai que les infos, en fait, elles ont été passées notamment sur le journal de la Comcom. Il y a eu aussi des lettres envoyées par la communauté de communes aux habitants. Il y en a eu une en janvier, une en juin. Donc, à chaque fois, cette info, elle est redite. Mais bon, déjà, tout le monde ne reçoit visiblement pas ces lettres. Ça, c'est un fait. Et puis, bon, voilà, il faut. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est matraqué de partout, donc c'est pas évident de faire passer l'information. Donc, c'est tout le travail, justement, de ce type de stand, c'est de faire passer l'information et de que les gens aient le temps aussi de se retourner.
Et je vois que vous avez un guide pratique du composteur là, sur votre stand. Est-ce qu'il y a des erreurs que tout le monde fait, des croyances sur le compostage, par exemple, qu'on ne peut pas composter les agrumes, les coquilles d'œufs? Est-ce que vous avez des choses comme ça qui reviennent?
Alors, c'est vrai que quand on parle de compostage, on a beaucoup de préjugés et notamment en tête une longue liste d'interdits qui souvent sont surtout des préjugés et pas une réalité. Nous, on fait appel à un formateur spécialisé dans le compostage pour former des gens sur cette thématique-là. Et il dit fort et régulièrement que tous les biodéchets se compostent. Après, certains, comme les agrumes ou les peaux de banane, vont mettre plus de temps à se décomposer. Quand on est à la maison, qu'on a son composteur dans le jardin, ça pose aucun souci d'avoir des déchets, des biodéchets qui se décomposent à une vitesse différente. C'est vraiment pas un souci. On peut mettre des coquilles d'œufs. Alors c'est vrai que si on les écrase, et ben du coup elles mettront moins de temps à se décomposer. Donc voilà, on peut l'écraser. On dit pour faciliter la décomposition de plutôt mettre des fruits en morceaux, les fruits abîmés en morceaux. Le pain, si on a du pain, bon ben voilà, on essaye en général de pas le gaspiller, mais ça peut arriver aussi en morceaux. Donc voilà, garder en tête qu'on peut mettre des choses en morceaux pour accélérer la décomposition. Mais à la maison, toujours pareil, on n'est pas contraint par rapport à quoi mettre dedans tant que ça reste un biodéchet. Même la viande, même le poisson vont se décomposer.
On retient la date du 1er janvier 2024 sur donc l'obligation de compostage pour tous. Merci Laurine Vignon. Je m'approche du stand Créa Récup. J'y retrouve Marie-Jo.
Alors, à l'atelier Récup, nous faisons des tawashi. C'est un nom barbare un peu, mais en fait, c'est assez simple. On prend des vieilles chaussettes, on coupe des bandes de différentes couleurs. Si les chaussettes sont en couleur, c'est encore plus joli. On tresse ces bandes sur un socle qu'on a préparé au préalable avec des pointes. Si vous connaissez le tricotin, c'est le même principe, sauf que c'est sur un socle en bois avec des pointes. Et on tresse ces bandes les unes après les autres dans les deux sens, dessus-dessous. À la fin, quand tout est bien tressé, on fait des nœuds pour arrêter et ensuite ça va nous donner une éponge carrée, très solide. Je vais voir à l'usage ce que ça donne, mais pour l'instant c'est pas mal. Voilà, et j'ai fait un ou une tawashi. Voilà, on peut la laver en machine lorsqu'on l'a utilisée plusieurs fois, ça va très bien et après c'est inusable.
Merci Marie-Jo. « Bonjour Laurent, vous êtes vous aussi à cette journée sur la plage de Saint-Nazaire en Royan pour fêter les 50 ans de la Paz. Et vous tenez le stand de Caravélo ou Garavélo. Je ne sais plus si on dit Caravélo ou Garavélo.
On dit les deux. Caravélo, c'est aujourd'hui parce qu'on a la caravane. On a commencé avec cette caravane parce qu'on n'avait pas d'atelier. Et maintenant, on a un super atelier à Saint-Jean et c'est notre garage à vélo parce qu'on a... Je ne sais plus combien de vélos, mais beaucoup de vélos. Et puis, on a énormément de matériel là-bas. Donc, mes techniciens supérieurs, comme je les appelle, préfèrent rester à gare à vélo plutôt que sortir avec la car à vélo. Il faut transporter tout le matériel. Et il manque bien sûr toujours la pièce qu'il aurait fallu ce jour-là. Donc voilà, c'est gare à vélo et car à vélo, les deux à la fois. C'est pareil, c'est le même collectif.
Vous êtes présent à cette journée qui est sous le signe de la transition écologique. C'est une valeur donc forte dans l'association, j'imagine.
C'est clair que quand on répare des vélos, c'est que d'une part, on a envie que les vélos soient utilisés le plus possible et de préférence à la place des voitures, pas juste pour faire du tourisme ou de la balade, mais pour aller au boulot aussi. Et puis, bah, si on les répare, c'est parce que il faut aussi réutiliser les pièces que l'on a démonté sur d'autres vélos et essayer de faire durer au maximum le matériel plutôt que d'en changer du jour au lendemain. Petite anecdote, j'ai emmené mon petit-fils à l'école il y a de ça 15 jours, 3 semaines. Et puis, il a fait un trottoir, il a crevé. Donc, à Grenoble, je suis allé chercher un réparateur vélo. Et je dis, est-ce que vous pouvez me réparer ça? Il m'a dit, je vais vous changer la chambre à air parce que ça va vous coûter plus cher si je répare que si je change la chambre à air. Parce que rien que la colle, il faut attendre 3 ou 4 minutes que ça sèche. Et c'est 2 minutes l'heure. Donc, ça va vous coûter plus cher. Donc, il m'a mis une nouvelle chambre à air. Alors, j'ai gardé la chambre à air, je la réparerai et je la lui ramènerai. Mais voilà. Même dans un truc de vélo, on préfère la consommation, quoi. Après, à Caravélo, nous avons aussi des pièces neuves, parce que des fois, les pièces usagées ne correspondent pas, ou sont vraiment trop usagées, donc il faut les changer. Mais, voilà, là, c'était vraiment, allez hop, on change tout de suite, c'est mieux. Non, c'est pas mieux.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup, beaucoup de vélos. Alors, ce sont des vélos qui ont été donnés?
Alors, tout au début, ça a été récupéré parce qu'on se disait, on va pas en avoir beaucoup, il faut qu'on aille les récupérer. Donc, on est allé à la déchetterie, on a récupéré des vélos. Bon, on a arrêté, parce que maintenant, les vélos, on nous les donne. On en a, des quantités, on est obligé d'en rejeter. Alors, on récupère le plus de pièces possible et puis on rejette. Et même dans les pièces qu'on récupère, des fois, je crois qu'il y en a qui ne sont plus utilisables, sauf sur des vieux, vieux vélos. Mais oui, ce sont tous des vélos qui nous ont été donnés. C'est pour ça que moi, je tiens à ce qu'à Caravélo, les prix soient libres, que les gens nous donnent ce qu'ils veulent. Alors, le vélo qu'ils vont choisir ne sera peut-être pas en état de rouler comme ça tout de suite. Mais c'est aussi le but du jeu de Caravélo, c'est surtout le but premier, c'est d'apprendre à en réparer et entretenir son vélo pour pouvoir être autonome dans la réparation. Je regarde là-bas parce qu'il y a un petit rat qui se balade et ça, je me dis que celui-là, il nous survivra sans problème.
Il y a plein de choses à observer sur cette plage de Saint-Nazaire en Royan. Et donc les personnes qui vont venir à Gare à Vélo peuvent donc, si j'ai bien compris, soit réparer leur vélo avec de l'aide, soit acheter en fait un vélo.
Alors là, vous avez prononcé un gros mot pour moi, acheter. Non, moi je donne les vélos et les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc chacun voit la nuance comme il veut. C'est pour ça que je veux pas qu'on dise acheter. Moi, je veux que ces vélos, si quelqu'un n'a pas d'argent, il puisse les prendre. Lui, il demande 50 euros, 70 euros. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pour ça que les vélos, les gens les prennent. S'il y a des choses à réparer dessus, on les répare ensemble. Sauf s'ils savent réparer et qu'ils veulent les réparer chez eux. Et s'ils roulent, tant mieux pour eux. Ils sont arrivés le jour où il y a un vélo qui roule. Et voilà, s'ils ont les moyens, oui, qu'ils nous donnent de l'argent, d'accord. Ça nous permet de racheter des pièces, racheter du matériel, racheter des outils. Mais ce n'est pas une obligation. Dans ma tête, ce n'est surtout pas une obligation.
Concrètement, si quelqu'un souhaite se rendre à Gare à Vélo, est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture? Et est-ce que vous pouvez rappeler le lieu de l'association?
Alors pour le lieu, il n'y a aucun souci. Donc on a eu la chance à la fin de notre expérience Place des Possibles de récupérer un très beau bâtiment à Saint-Jean-en-Royans, donc juste au-dessous de la mairie, entre l'ancien Intermarché et le centre social. Donc il y a là un grand portail qui bientôt va être repeint, qui va être beau comme tout, que vous ne pourrez plus louper. Pour les horaires, je ne peux rien vous dire maintenant. Les horaires, en fait, dépendent de la disponibilité des bénévoles. Donc, pour pallier à cette chose, nous avons une liste de personnes intéressées, soit une liste mail, soit une liste avec des SMS. Et quand on fait une ouverture, la veille ou deux jours avant, on envoie un petit SMS, on envoie un mail pour dire que ce sera ouvert tel jour, de telle heure à telle heure.
D'accord.
Alors, le numéro de téléphone, c'est le mien, 06 13 89 05 01. Et le mail, c'est caravelo@mailo.com, si je ne me trompe pas.
Merci Laurent.
Mais c'était un plaisir, merci à toi.
Je suis à présent avec Myriam Dardard, qui travaille avec la compagnie du Gravillon. Et qui a un stand aujourd'hui sur la plage de Saint-Nazaire avec un jeu qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce jeu et puis la compagnie avec laquelle vous travaillez ?
Bonjour. Aujourd'hui, en effet, je présente Inventons nos vies bas carbone, donc un jeu qui est présenté par l'association du même nom, qui a pour objectif de mieux faire connaître les enjeux du dérèglement climatique et ses conséquences, donc notre motivation finalement à agir, et tout ça aussi en nous présentant notre empreinte carbone en tant qu'individu, à savoir comment elle est composée et quelle est notre marge de manœuvre justement pour, une fois qu'on la connaît, et bien on sait comment y travailler et quel est l'objectif aussi à atteindre pour rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, pour rester sur une planète habitable.
Et donc c'est un jeu en fait qui est dépliable et que vous pouvez emmener sur des stands pour faire participer les gens, c'est ça ?
Alors oui, il peut se dérouler en mode atelier où on se retrouve avec un déroulé pendant 2 heures à le faire. Et puis là, il est présenté en mode stand, donc c'est-à-dire que certaines choses sont affichées. Il y a des cartes affichées avec l'empreinte carbone, certaines cartes de constat aussi de la situation et qui permettent d'interpeller aussi donc les personnes qui passent et de lancer la discussion en fonction des personnes qui passent. Et informer à la volée. L'idée, c'est de voir que dans notre empreinte carbone, finalement, il y a plusieurs postes finalement d'émissions de gaz à effet de serre et qui sont, c'est assez rigolo, assez équitablement répartis finalement dans notre empreinte carbone, en tout cas des habitants, habitantes de la France, entre le transport, l'alimentation, la consommation et le logement. Et finalement, on peut voir donc à l'intérieur de chacun les marges de manœuvre que nous avons en fonction de nos habitudes. Et il sert aussi à questionner, au-delà de nos marges de manœuvre individuelles, quelles sont les marges de manœuvre collectives et les endroits sur lesquels aussi on peut évoluer collectivement pour nous faciliter aussi cette évolution individuelle.
Alors, est-ce que vous pouvez illustrer cela en nous présentant un exemple d'action collective et un exemple d'action individuelle ?
Alors, on peut prendre l'exemple du logement, par exemple, où sur l'action individuelle, on va pouvoir économiser rapidement de l'énergie en diminuant sa température de chauffage ou en isolant son logement, si on peut le faire, si on est propriétaire aussi de son logement, parce que on revient donc à cette limite aussi de l'action individuelle. Et sur le collectif, eh bien, ça va être aussi comment on peut inciter les pouvoirs publics à mettre en place de nouvelles règles pour que les logements soient mieux isolés, pour que les logements loués aussi soient mieux isolés.
Le but, c'est d'informer, j'imagine, en premier lieu.
Alors le but, c'est d'informer en effet et de mettre en mouvement, et c'est un peu le but du spectacle aussi, Point de bascule, qui est proposé par la compagnie du Gravillon. Donc c'est vraiment d'informer et de pouvoir ouvrir le débat. D'ailleurs aujourd'hui, le spectacle est aussi suivi d'un temps d'échange entre les personnes du public qui le souhaitent pour voir comment on poursuit que ce point de bascule soit finalement un point de départ aussi à d'autres choses. Et c'est pour explorer justement toutes les formes d'information et de transmission pour la mise en mouvement que je propose aussi ça à côté.
Vous vous permettez à la fois de réfléchir avant le spectacle, pendant le spectacle, mais aussi après, par un débat aujourd'hui pour les 50 ans du Centre social La Paz. Eh bien, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.